Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la deuxième lettre de Pierre, au chapitre 1er. Et nous allons lire des versets 12 à la fin du chapitre. 2 Pierre, chapitre 1. Et nous commençons donc notre lecture à partir du verset 12. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements, car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachez tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Je vous rappelle que dimanche prochain, nous sommes appelés à voter, à mettre notre bulletin de vote dans l'urne pour le premier tour des élections présidentielles. Et chaque candidat, qui sont donc aujourd'hui au nombre de 10, nous a présenté, va encore nous présenter son programme, nous faire des promesses, essayer de nous vendre un rêve. Et nous savons par expérience que malheureusement, les rêves qui nous sont présentés restent des rêves. Il y a récemment, je lisais que quelques des experts avaient étudié les programmes des deux favoris et avaient réalisé que les deux programmes étaient irréalisables, tels qu'ils étaient présentés. Mais ces hommes nous présentent un rêve, et c'est tout l'art des entreprises de communication aujourd'hui, de nous présenter des choses, de nous faire rêver. Ils parlent de l'objet de nos rêves, que ce soit la voiture ou une maison ou des vacances. Et puis, quand ces choses deviennent une réalité, elles sont très souvent loin de ce qui nous avait été présenté. Et cela reste un rêve. L'apôtre Pierre, dans les versets que nous voulons considérer ce matin, nous parle d'une réalité. Nous parle d'une réalité qui est glorieuse, une réalité qui est annoncée, une réalité qui a des implications. Mais avant de voir cela, simplement nous rappeler ce que Pierre nous a déjà dit. Nous avons déjà vu que le verset central de l'argumentation, de l'objectif de l'apôtre Pierre est au verset 10, quand il écrit « C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection ». Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. L'apôtre Pierre écrit cette lettre à des croyants qui sont au milieu, qui connaissent des difficultés, mais nous allons en voir un peu plus tard dans les chapitres qui suivent. Et il nous exhorte à être assurés de notre salut. Un salut, comme il nous le dit au verset 3 de ce même chapitre 1er, nous est donné de Dieu. Sa vie divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Il nous a tout donné. Et cette vie, par contre, elle se manifeste, elle est vécue et elle grandit. Et nous avons cette exhortation à partir du verset 5 et suivant, où Pierre nous rappelle que la vie chrétienne est une croissance. Et il nous exhorte à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi, une foi qui nous est donnée, une foi que nous avons reçue en partage avec tous les élus. Il dit, faites tous vos efforts pour rejoindre à votre foi la vertu, à la vertu, la connaissance, à la connaissance, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, la patience, à la piété, l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle, l'amour. Ces choses confirment la réalité de notre conversion, la réalité de notre appartenance à Christ, et elles produisent du fruit. Verset 8, si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vivons ainsi parce que Dieu nous a donné la foi en Christ. Et c'est l'obéissance de la foi qui nous fait avancer, qui nous fait meubler cette foi avec toutes ces choses dont l'apôtre Pierre nous en donne une liste. Une foi en Christ, une foi dans les promesses glorieuses et merveilleuses que nous avons. Nous ne vivons pas dans la sécurité en essayant de mériter la grâce de Dieu par nos œuvres. Non, nous vivons dans la foi en Christ et la foi dans les promesses de Dieu. Et Pierre, ensuite, continue avec ce verset 12. Il sait qu'il s'adresse à des croyants qui sont déjà affermis dans ces vérités, dans ces choses. Ils sont déjà établis dans la vérité. Mais il sait que nous avons besoin constamment de revenir à ces choses, de nous rappeler de ces réalités. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses. Et puis il continue par exemple au verset 14, il sait qu'il va bientôt quitter ce monde. Il sait qu'il va bientôt être avec le Seigneur Jésus-Christ. Il parle au verset 13, il compare ce corps comme une tente. Et nous avions déjà vu cela, que cela parle de quelque chose qui est temporaire. Ce n'est pas quelque chose de définitif. Nous ne sommes pas dans ce monde éternellement. Nous sommes pèlerins, nous sommes de passage. Et un jour, nous allons lever cette tente pour entrer dans la gloire céleste avec Christ. La mort d'un croyant est quelque chose de merveilleux dans ce sens qu'il va être avec Christ pour l'éternité. Et puis, ce n'est pas non plus quelque chose d'accidentel. Rappelez-vous, Jésus lui-même avait annoncé, avait prédit, avait dit à Pierre la manière dont il allait être mis à mort. Il allait être conduit par quelqu'un contre sa volonté pour ensuite être mis à mort. Et Jésus a montré à Pierre et à ses disciples qu'il maîtrisait absolument tout. Et la mort d'un croyant n'est pas quelque chose d'accidentel. Le Seigneur a fait connaître à Pierre qu'il allait bientôt partir. Ce n'est pas accident, cela fait partie d'un plan, et d'un plan qui n'est pas simplement global, mais qui s'occupe de chacun individuellement. Et verset 13, Pierre, sachant à qui il s'adresse, sachant que ses lecteurs sont affermis dans la vérité, sachant qu'il va bientôt quitter ce monde, nous dit que la meilleure façon pour lui d'utiliser le temps qui lui reste, c'est de rappeler ces choses. Aussi, verset 13, « Je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. » Nous savons que Dieu est fidèle, et nous savons que Dieu garde les siens, mais la sécurité éternelle n'est pas quelque chose de mécanique ou d'automatique. La préservation de Dieu va aussi avec la persévérance des saints. Et Dieu garde les siens et il utilise des avertissements dans sa parole pour nous garder de tomber dans l'indifférence. C'est pour ça que nous avons toutes ces exhortations dans les lettres du Nouveau Testament, de veiller et de considérer les choses, non pas de ce monde, mais les choses d'en haut. Et Pierre de préciser au verset 15 que sa dernière volonté n'est pas que des croyants découvrent des nouveautés, mais qu'au contraire, ils se souviennent de ces choses. Ils se souviennent de la grâce de Dieu. Ils se souviennent de l'œuvre que le Seigneur Jésus-Christ a accomplie à la croix, qu'ils se souviennent de ses promesses plus grandes et plus précieuses, qu'ils se souviennent de la promesse du retour de Christ, que Christ revient dans ce monde pour juger le monde et pour prendre avec lui son épouse et l'amener dans la gloire. Et c'est de cette réalité que Pierre parle dans les versets suivants, dans les versets 16 et suivants. Et tout d'abord, c'est une réalité glorieuse. Nous avons déjà abordé ce thème, mais nous allons y revenir brièvement. Il parle de cette réalité qui est une réalité glorieuse, le retour de Christ. Quand il parle d'avènement, ce terme est le terme parousia, terme de présence qui est utilisé 18 fois dans le Nouveau Testament et qui parle du retour de Christ. Pierre l'utilisera à nouveau, par exemple, au chapitre 3 et au verset 4, parlant des moqueurs qui disent « Où est la promesse de son avènement ?» de sa parousia, de son retour, car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Et au verset 12, toujours de ce même chapitre, « Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. » L'avènement, parousia, le retour, la présence de Christ. Mais Pierre précise que ce retour de Christ a déjà fait partie de l'enseignement que l'apôtre a apporté. Verset 16, il dit « Nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous avons fait connaître. » Le retour, l'avènement de Christ n'est pas une vérité secondaire, n'est pas un post-scriptum de l'enseignement de l'apôtre. C'est quelque chose d'essentiel. Christ a reçu tout pouvoir, toute autorité et il revient. Il revient dans la gloire, chercher les siens et juger le monde. Et nous devons attendre ce jour avec impatience. Ce n'est pas quelque chose de secondaire, c'est quelque chose d'essentiel. Christ est monté dans la gloire, mais il y est monté pour un jour revenir chercher les siens. Et Pierre précise encore que notre confiance dans le retour et dans la puissance de Jésus-Christ n'est pas basée sur un mythe, sur une fable, mais sur une expérience vécu de sa majesté, une expérience qui nous est rapportée dans les évangiles. Et il y a eu des témoins. Et la différence entre les fables que nous pouvons entendre et les mythes que nous pouvons apprendre à l'école de l'histoire des mythes de la mythologie grecque, par exemple, la différence entre ces mythes et la foi chrétienne, ce qui fait la différence, c'est l'histoire. Les vérités que nous proclamons, que nous annonçons, ne sont pas le fruit d'une imagination humaine, mais sont le résultat d'une observation historique. Nous avons les quatre évangiles qui sont le témoignage de ces témoins. Et Pierre, par exemple, dans cette même lettre, parle souvent de la connaissance, connaître des choses qui sont basées sur des faits, sur une réalité. Il parle, verset 2, « Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. » Et nous retrouvons ce terme dans les versets 3, 5, 8, dans le chapitre 2 et dans le chapitre 3. La foi chrétienne est basée sur la connaissance et sur la connaissance de faits, de réalité. Et Pierre parle d'une réalité, d'un événement en particulier. Et c'est cet événement qui lui donne la confiance dans la puissance de Jésus-Christ et dans le retour de Christ dans la gloire. Cet événement est l'événement de la transfiguration, vous vous rappelez, où le Seigneur Jésus-Christ avec Pierre, Jacques et Jean sont montés sur la montagne pour prier. Et là, un nuage, une nuée est descendue, et au milieu de cette nuée, le Seigneur Jésus-Christ a eu ce visage transfiguré, comme on dit, hein, où la gloire est apparue et où les disciples ont entendu cette voix. Et Pierre nous le rappelle dans les versets 17 à 18, « Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Nous étions là, dit Pierre. Nous étions là, nous avons vu la gloire. Nous avons vu la majesté, quelque chose de cette majesté du Fils de Dieu. Et c'est pour cela que Pierre peut écrire et peut parler de la puissance, de la gloire, de l'autorité que Jésus-Christ va avoir lorsqu'il reviendra au jour de son avènement, au jour de son retour, parce que cette expérience de la transfiguration est un aperçu de la gloire qui sera manifestée au jour du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Pierre aurait pu parler du fait qu'il a vu Christ après la résurrection. Il aurait pu parler du fait qu'il a vu le Seigneur Jésus-Christ être enlevé, monté dans la gloire, et que les anges soient venus pour leur dire, leur annoncer que vous avez vu le Seigneur Jésus-Christ monter, mais un jour il revient. Il aurait pu parler de cela, mais ces événements ne révèlent pas autant la majesté de Christ que l'événement de la transfiguration. Et Pierre veut que nous soyons conscients qu'il y a une réalité glorieuse à venir, le jour du retour de Christ, le retour de Christ dans la gloire, dans la puissance, dans la majesté. Une réalité qui est glorieuse. Mais la deuxième chose que Pierre souligne, c'est que cette réalité est annoncée et a été annoncée tout au long de l'histoire. Pierre décrit la l'avènement du Seigneur Jésus-Christ et la parole de l'avènement de Christ comme étant une parole prophétique, verset 19. Et l'Ancien Testament parle de la venue du Seigneur Jésus-Christ, mais l'Ancien Testament parle de la première venue, de la naissance de Christ. Mais il y a aussi des passages qui montrent que la réalisation est encore à venir, puisqu'il parle du retour de Christ et des événements qui accompagnent son retour dans la gloire. Je citerai par exemple ce passage en Ésaïe chapitre 13, versets 9 et suivant. Voici, il est dit, « Le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs, car les étoiles des cieux et les astres ne feront plus briller leur lumière. Le soleil s'obscurcira dès son lever, et la lune ne fera plus luire sa clarté. Je punirai le monde pour sa malice, et les méchants pour leurs iniquités. Je ferai cesser l'orgueil des hautains, et j'abattrai l'arrogance des tyrans. » Et ce langage, on va le retrouver, par exemple, dans la bouche du Seigneur Jésus-Christ. En Matthieu 24, où le Seigneur parle de ce jour où tout finira et où il reviendra, il dit, Matthieu 24, verset 29 et suivant, « Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire, etc. » Et ce passage d'Ésaïe, et on pourra en citer d'autres, ne trouvera son accomplissement qu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Ce retour dans la gloire qui est annoncé dès l'Ancien Testament. Et Pierre de dire, nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique. Ces prophéties qui annoncent l'avènement, le retour de Christ dans la gloire, nous la tenons d'autant plus certaine parce qu'elle a été confirmée. Nous avons eu cet aperçu de la majesté de Dieu, de Christ. Nous avons été les témoins de cette gloire et nous savons qu'il reviendra dans cette majesté, une gloire qui sera vue de tous, de tous les hommes. Il nous l'a révélé et nous savons qu'il revient, que Jésus-Christ revient dans la gloire. Et cette parole prophétique, toutes ces prophéties qui nous annoncent le retour et qui, justement, parce qu'elles ne sont pas encore accomplies, suscitent les moqueries de certains. Pierre dit, nous tenons d'autant plus certaine cette parole prophétique. Christ revient et il revient dans la gloire. Et il insiste, et il redit dans ce verset 19 ce qu'il a déjà dit dans les versets 12 à 15, qu'il est important de prêter attention à cette parole. Et il utilise une image, l'image de la nuit, de la nuit, ce monde qui est dans les ténèbres du péché, dans les ténèbres de l'angoisse, les ténèbres de la convoitise, le monde qui est plein de ténèbres et où il est très facile de trébucher. Et le seul moyen de ne pas trébucher, c'est d'avoir la lumière, c'est de posséder une lampe qui nous éclaire. Et cette lampe, cette parole, nous parle du retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Et Pierre nous exhorte à prêter attention afin de garder nos yeux fixés sur cette réalité, de ne pas détourner nos regards, de ne pas nous endormir, mais de regarder et à ce jour où Christ revient dans la gloire. Cette espérance du retour de Christ, cette attente du retour de Christ dans la gloire, est une lumière pour nous dans ce monde de ténèbres. Jean le dira par exemple différemment dans sa première lettre au chapitre 3 et les premiers versets, les versets 1 à 3. Il nous rappelle ce que nous sommes. Bien, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Voilà ce que nous sommes déjà. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra Christ, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Voilà ce qui nous attend. Et la conséquence, ou la logique, le développement logique de l'argumentation de l'apôtre Jean, c'est ceci, verset 3, « Quiconque a cette espérance en lui, en Christ, se purifie, se garde du péché, se détourne du péché, se sépare du monde, fait mourir la chair pour reprendre d'autres images qu'utilise l'apôtre Paul, par exemple. » Et il se purifie comme lui-même est pur. C'est avec cette espérance devant soi de la réalité du retour de Christ. Celui qui a cette espérance en lui-même se purifie comme Christ lui-même est pur. Et Pierre rajoute encore un avertissement. Il souligne qu'il est important de ne pas faire dire à la parole n'importe quoi. Et bien entendu, Pierre a en tête les faux docteurs. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de division, il n'y a pas de verset dans l'original quand la lettre a été écrite. Mais nous voyons au début du chapitre 2, à la suite de ce qu'il nous dit, qu'il parle de faux prophètes et qu'il y aura parmi vous de faux docteurs, des docteurs qui ne nient pas l'inspiration des prophètes, mais qui tordent le sens des paroles des prophètes pour qu'elles s'accordent avec leurs faux enseignements. Il le redira par exemple au chapitre 3 et au verset 15 et suivant. « Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. » Ces faux docteurs ne rejettent pas les prophéties, la parole, mais ils en tordent le sens pour qu'elles s'accordent avec leurs faux enseignements. Mais Pierre nous dit donc, nous exhorte, prêtez donc attention à la parole prophétique comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Et le principe qui nous guide dans cela, c'est que la signification, l'interprétation de la prophétie est objective, elle n'est pas subjective, elle ne dépend pas de celui qui lit la parole, parce que la parole ne change pas, elle ne dépend pas de l'un ou de l'autre. Et Pierre, donc, de préciser, verset 21, que l'interprétation de l'Écriture ne dépend pas de ce que nous en pensons. La parole n'est pas comme une pâte à modeler. que l'on peut mouler ou à laquelle on peut donner une forme, la forme que l'on préfère. Non, c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu. L'Esprit qui parle, l'Esprit qui a une intention quand il pousse les hommes à parler de la part de Dieu. Et lorsque nous venons à la parole, ce n'est pas pour y mettre notre interprétation sur la parole, mais c'est pour entendre ce que Dieu dit, ce que Dieu nous dit. C'est son interprétation que nous venons entendre et que nous voulons entendre. Pierre nous rappelle donc que Pierre écrit pour que nous ayons l'assurance de notre salut. Il nous rappelle que c'est Dieu qui nous donne tout, qui nous a donné la foi en partage, une foi du même prix que la foi des apôtres. Il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, cette vie qui se manifeste par l'obéissance de la foi et qui se meuble une fois dans les promesses de Dieu, des promesses glorieuses, précieuses, une fois dans la réalité du retour glorieux de Christ, un retour qui est annoncé dans la parole, une parole prophétique à laquelle nous devons prêter attention, à laquelle il faut revenir jour après jour, parce que c'est Dieu lui-même qui a parlé. C'est Dieu qui parle par sa parole. Et le retour de Christ est cette réalité qui est annoncée dès l'Ancien Testament. Et bien sûr, les apôtres nous ont rappelé de ces réalités tout au long du Nouveau Testament. Et la troisième chose que nous pouvons en tirer, c'est l'application ou cette réalité du retour de Christ dont il est parlé, elle a des implications. On peut résumer ces implications en trois termes, en trois mots. Il y a tout d'abord la discipline. Imaginez par exemple que nous soyons dans l'armée, pris au piège, derrière des lignes ennemies. Et le capitaine ou le supérieur arrive à nous faire passer à un message codé qui nous donne des instructions. Qu'est-ce qu'on fait avec ces instructions, ce message codé? Est-ce qu'on le fait passer aux uns aux autres en demandant à ce que chacun nous donne son avis? C'est pas tellement ce qui va nous faire avancer. Non, on va d'abord chercher à comprendre le message pour pouvoir obéir. Les avis des uns et des autres ne sont pas utiles. Le but, c'est de comprendre ce que le capitaine nous dit. Et ça demande donc cette discipline de tout faire pour être sûr de bien comprendre le message. Parce qu'après l'avoir compris, l'armée va en fait chaque soldat va remettre sa vie entre les mains du capitaine et suivre les ordres qu'il donne. Et c'est la même chose avec la parole. Dieu a parlé. Dieu a poussé des hommes. L'Esprit Saint a poussé des hommes qui nous ont parlé, non pas d'eux-mêmes, mais de la part de Dieu. Et Dieu a utilisé ces hommes pour révéler sa parole, pour expliquer sa parole. Et notre responsabilité, notre devoir, ce n'est pas de mettre nos idées dans la parole, mais c'est de venir à cette parole et de nous laisser enseigner par cette parole. C'est de se mettre à l'écoute de cette parole, de l'approfondir, de la méditer, afin de bien saisir le message, de cette parole, afin de bien la comprendre, pour ne pas partir sur une tangente. Et en comprenant ce message, notre foi se repose entièrement sur celui qui nous a donné ce message, cette parole, sur notre Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut cette discipline, il faut aussi l'humilité. Si on croit que la parole de Dieu est l'autorité sur nos vies, il nous faut l'humilité. L'humilité, parce que bien souvent, nous sommes pleins d'orgueil, nous pensons tout connaître. Et la parole de Dieu nous demande de penser ou parfois d'agir contrairement à notre nature. Et il faut de l'humilité pour accepter d'être enseigné par cette parole, d'être enseigné par elle, d'avoir un esprit brisé, un cœur brisé, et de nous reposer non pas sur nous-mêmes, mais sur notre Seigneur Jésus-Christ, non pas sur nos forces, mais sur lui et lui seul. Et nous avons besoin de l'aide de l'Esprit de Dieu dans l'étude, de même dans la lecture de la parole. C'est lui qui est l'auteur de cette parole. C'est lui qui nous l'a donnée. Et c'est lui qui peut nous aider à la comprendre. Il doit briser notre nature orgueilleuse, notre nature rebelle, notre tendance à vouloir interpréter cette parole avec, dans un sens que l'on préfère. Et nous avons besoin que l'Esprit nous enseigne à ne pas tordre le sens des Écritures, surtout des Écritures qui nous font mal. Nous avons besoin de l'Esprit qui œuvre, qui nous donne cette humilité pour comprendre et pour vivre selon la parole. L'Esprit aujourd'hui n'ajoute pas de nouvelles connaissances. L'œuvre de l'Esprit est qu'il nous rende plus soumis à cette parole, à cette révélation que Dieu a déjà faite de lui-même, de ce salut en Jésus-Christ et de ce retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Jour de gloire pour le Seigneur Jésus-Christ lui-même, où toute langue confessera, tout genou pliera, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Prêtons donc attention à cette parole. Prêtons attention à cette parole prophétique qui nous parle de la venue du retour de Christ dans la gloire. Une réalité, ce n'est pas un rêve, ce n'est pas une fable, c'est une réalité. Prêtons attention à cette parole avec discipline, avec humilité, avec l'aide de l'Esprit de Dieu, afin que nous soyons enseignés de Dieu, afin que nous soyons prêts pour ce jour où le Seigneur Jésus-Christ revient dans sa gloire pour juger le monde et pour chercher son Église. Que nous soyons de ceux, donc, qui prêtent attention à l'Écriture, à la parole, et qui veillons sur nous-mêmes. Que Dieu, donc, nous aide à saisir cela, à comprendre cela, à nous appuyer sur lui, à nous appuyer sur sa parole, qu'il nous aide à la comprendre et qu'il nous aide à ne pas perdre de vue la glorieuse réalité que le Seigneur Jésus-Christ revient. Toutes les Écritures en parlent. Les témoins ont vu la gloire du Fils qui leur a été révélée. Ils nous en ont fait part. Et c'est de cette même gloire, avec cette même gloire, que le Seigneur Jésus-Christ revient pour prendre les siens et pour que nous soyons avec lui dans la gloire. Que Dieu nous aide ne pas perdre de vue cette réalité, afin que, comme Jean l'écrit, avec cette espérance, nous nous séparions encore davantage du monde et que nous vivions à la gloire de Dieu. Que Dieu nous aide à comprendre cela, à méditer cela et à le vivre pour sa gloire. Amen.